Bonjour tout le monde. Nous reprenons donc le fil de notre entretien en insistant cette fois-ci sur ce que disent les historiens sur ces grandes figures de la croyance musulmane, mais d'une croyance qui n'est pas toujours partagée de la même façon entre la branche chiite de la croyance islamique et la branche sunnite de cette croyance. Et les figures de Hussein et de Ali en particulier, comme celle de Fatima, la fille du prophète, sont particulièrement travaillées par la tradition islamique dans les trois premiers siècles de l'Égypte, dans une littérature qui a divergé, puisque d'un côté, les musulmans sunnites voient ces figures-là comme des figures certes religieuses très proches du prophète, mais en même temps, ils ne rejettent pas la succession politique qu'il y a eu après la mort du prophète, avec les quatre premiers califes dits orthodoxes, et ensuite avec la prise surtout du pouvoir à Damas par Muawiya. Muawiya qui a désigné son fils Yazid comme son héritier, créant ainsi le phénomène dynastique auquel nous assistons d'ailleurs aujourd'hui aussi dans certains régimes politiques dans les pays musulmans. Et cette désignation par Muawiya de Yazid a déclenché la résistance de Hussein, fils de Ali, qui a refusé de donner sa bay'a à Yazid. Alors il s'agit là donc d'une rupture politique très nette. Et il y a eu une bataille qui s'est engagée entre les partisans de Hussein et les partisans de Yazid quand il est arrivé au pouvoir. Il y a donc là un point d'opposition d'ordre politique et qu'il faut bien distinguer de l'opposition d'ordre religieux. Et l'historien se demande en effet quelles sont les raisons qui ont trait à ce que Ibn Khaldoun appelle la asabiya, c'est-à-dire la solidarité tribale. Car la solidarité tribale n'a pas disparu du jour au lendemain, après les enseignements du prophète et l'expérience du prophète à Médine en particulier, et après aussi les expériences des Khulafa Rashidoun pendant une trentaine d'années, de 632 jusqu'à l'avènement de Ali au pouvoir en 656. Les luttes anti-islamiques telles qu'elles se déroulaient entre les clans, entre les tribus, ont continué parce que tous les habitants de l'Arabie et tous les membres des tribus ne sont pas également encore convertis à la nouvelle conception de la cité et de la manière de construire un ordre politique dans tout le Hijaz, et surtout lorsque l'islam commence à s'étendre au-delà de l'Arabie pour aller conquérir ce qui est aujourd'hui le Proche-Orient et même l'Afrique du Nord, eh bien les musulmans ne pouvaient pas encore entrer dans ce qui va devenir progressivement l'islam, avec un droit construit, avec une théologie, avec une exégèse, etc. Donc là, le fait de présenter les grandes figures constitutives de la croyance islamique fondamentale uniquement avec le vocabulaire qui a été utilisé par les historiens de cette période fondatrice entre 622 et 661. C'est une période extrêmement agitée politiquement, et c'est l'histoire politique de ces agitations qu'il faut faire pour voir comment progressivement seulement l'intervention des versets coraniques, l'intervention des hadiths pour fonder la nouvelle croyance qui elle-même renvoie à la nouvelle conception de la légitimité politique pour gérer la cité islamique. Ces études-là, en confrontant chaque fois la dimension politique du problème et la dimension religieuse, ne sont pas encore étudiées convenablement, et surtout face à la force des médias modernes, face à la force de la rhétorique de quelqu'un comme Amr Khalid, qui arrive à toucher un très large public en lui donnant exclusivement une présentation qui est fondée sur la mythologisation, c'est-à-dire la construction mythologique de ces grandes personnalités fondatrices, je le répète, de la croyance musulmane, eh bien, on fausse actuellement le débat au sujet des mêmes problèmes qui se présentent devant nous, puisque nous sommes aujourd'hui, dans les pays européens, placés dans la même situation historique, avec les mêmes tensions politico-religieuses que celles des premiers musulmans dans les pays conquis, et même au Hijaz en Arabie, qui avaient à lutter aussi pour insérer le nouvel islam, pour insérer les nouvelles conceptions de la vie sociale, de la vie culturelle, de la vie politique, dans les sociétés qui obéissaient encore à des croyances religieuses, qui obéissaient encore à des règles de solidarité sociale, qui étaient encore des règles de ce que l'on appelle justement, à partir de l'islam, la jahiliya. La jahiliya est désigne toutes ces sociétés et toutes ces cultures qui continuaient à vivre après les premières victoires politiques de l'islam, c'est-à-dire l'installation du califat à Médine de 632 à 661, et davantage encore l'installation d'un califat et même d'une dynastie, et pas seulement un calife, qui se succède en tant que calife avec les règles de la légitimation du calife. Eh bien, il y a là un envahissement de la politique dans la religion, exactement comme nous le voyons aujourd'hui lorsque nous discutons avec des Français, des Allemands, des Anglais sur l'introduction de ce même islam, de cette même charia, de ces mêmes croyances musulmanes dans des sociétés où il y a non pas une croyance religieuse à la base de l'organisation sociale et politique, mais il y a des conception politique moderne, un droit moderne qui est voté par des parlements sans aucune espèce de référence à une instance religieuse, ni à l'Église qui est depuis le XVIIIe siècle mise à l'écart du pouvoir politique, et sans référence à des prêtres ou des théologiens chrétiens pour dire ce qu'ils pensent de l'ordre républicain, dire ce qu'ils pensent de ce que font les chrétiens dans leur vie religieuse qui relève du privé. Et nous entendons toujours parler justement de l'intervention de l'islam dans l'espace public qui est géré par un État laïque républicain qui ne veut pas connaître, encore une fois, de toutes ces références qui sont faites à la religion. C'est exactement la même tension qui donne lieu aux mêmes oppositions, aux mêmes incompréhensions entre, encore une fois, les acteurs du premier siècle de l'Égypte qui étaient encore soit païens avec leurs croyances païennes, soit appartenant à d'autres religions comme les juifs, les chrétiens, les zoroastriens, les manichéens, qui existaient dans les sociétés comme l'Iran ancien et comme la Mésopotamie et comme tous les pays, par exemple les berbères. Les berbères en Afrique du Nord étaient des polythéistes. Quelques-uns parmi eux étaient convertis au christianisme, mais ils ne connaissaient ni l'arabe ni l'islam dans lequel était présenté l'arabe, ou l'arabe dans lequel était enseigné l'islam. Et donc, il y avait également des tensions pour insérer dans des sociétés nouvelles, insérer la croyance islamique, la foi islamique, comme le font aujourd'hui les musulmans dans les pays européens. C'est pourquoi il est très intéressant de revenir à l'histoire, de revenir à la sociologie des croyances, de revenir aux conceptions du sacré, aux conceptions de la référence aux divinités qui se faisaient autrefois, et de revenir aujourd'hui à ce que les Européens opposent aux musulmans chaque fois qu'on discute de questions comme le port du voile ou comme l'application de la charia. Nous reviendrons dans notre dernière émission sur cette question-là qui demandera beaucoup de séances ultérieures si nous voulons vraiment introduire la dimension de l'histoire critique positive dans l'intelligence des problèmes qui nous sont posés aujourd'hui. Bonjour tout le monde, nous reprenons nos entretiens et il ne nous reste plus que 3 séances pour achever la série d'entretiens prévus pour ce mois de prévu que ces séances pourraient reprendre et aborder un grand nombre de sujets d'actualité et puisque les auditeurs semblent s'intéresser aux essais d'explication et aussi à la pédagogie que je m'efforce d'utiliser pour introduire dans les débats, les grands débats qui se déroulent à travers toute l'Europe, à travers l'Amérique, mais aussi dans les pays musulmans, au sujet des tensions dramatiques, tensions politiques, tensions économiques, tensions sociales, tensions culturelles que nous sommes en train de vivre et qui, chaque jour, deviennent plus inquiétantes, alors que par ailleurs, il y a partout un espoir que la situation dramatique dans laquelle nous sommes entrés historiquement depuis le 11 septembre pourrait avoir une fin. Au lieu de cette fin espérée, nous entendons chaque matin des informations au sujet d'une guerre que nous allons de nouveau vivre, puisque la guerre annoncée contre l'Irak semble inéluctable. Devant cette situation, il faut continuer à apporter des réponses aux demandes du public, mais ces réponses ne doivent pas s'inscrire, comme nous l'avons déjà vu, uniquement dans le face-à-face actuel qui utilise la force des deux côtés. Force du terrorisme, force de la riposte. La dernière fois, j'avais indiqué que dans les discussions au sujet de tous ces problèmes qui nous assaillent, il y a une troisième voie aux deux voies que j'avais présentées, à savoir celle des musulmans, qui s'en tiennent aux enseignements de ce que tous les musulmans appellent l'islam, sans toucher aux problèmes posés par la connaissance historique de cet islam auquel se réfèrent les musulmans, et d'autre part, face à ce que les musulmans espèrent, ce qu'ils veulent voir advenir dans notre histoire et les relations entre l'islam et l'Occident, eh bien, de l'autre côté, du côté de l'Occident, également, il y a l'usage de la force et une impossibilité intellectuelle et culturelle d'entrer dans la position que défendent les musulmans, une position religieuse fondée sur la croyance, fondée sur les enseignements de Dieu, alors que chaque fois que les musulmans réfèrent à leur croyance fondamentale en appuyant sur ces croyances, sur la révélation coranique et sur les enseignements de Dieu, au lieu qu'il y ait communication, il y a un fossé qui se creuse. Je peux citer plusieurs exemples que je suis en train de vivre personnellement. Il y a la semaine dernière, j'étais à Auxerre, une ville de France, où la Ligue de l'enseignement et le Cercle Condorcet, qui sont des lieux de débat intellectuel, de débat historique, mais de débat aussi géopolitique, ces deux associations, Ligue de l'enseignement, qui est la Ligue qui défend en particulier la laïcité de l'enseignement en France, et le Cercle Condorcet ont organisé une rencontre sur l'islam actuel tel qu'il s'exprime en France et en Europe. Et là, des musulmans sont venus présenter leur vision sur l'insertion et les problèmes posés par l'insertion de l'islam dans les sociétés européennes. Évidemment, ce genre de rencontres et ce genre de problèmes sont discutés partout. La semaine prochaine, je vais à Hambourg pour discuter des mêmes questions. Je vais dans tous les pays européens où partout on pose les mêmes questions au sujet de la manière dont les musulmans réagissent aux événements que nous vivons et les argumentaires que les musulmans construisent pour expliquer aux Européens leurs demandes, exposer leurs besoins, exposer leurs attentes, leurs espérances. Et dans un débat auquel, en France, nous avons assisté, il y a eu également un long débat sous le titre « Les menaces de l'islam ». C'est très très dangereux de continuer à parler ainsi partout en Europe, en Amérique, dans le monde, de l'islam en termes de menaces, les menaces de l'islam. Et dans toutes les discussions, tous les débats auxquels j'assiste, je constate que les références à l'histoire, sur lesquelles personnellement j'ai insisté au cours de tous nos entretiens, les références à l'histoire sont pratiquement absentes. Nous reviendrons sur cette question-là qui demandera beaucoup de séances ultérieures si nous voulons vraiment introduire la dimension de l'histoire critique positive dans l'intelligence des problèmes qui nous sont posés aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Pour cette dernière intervention, je voudrais surtout remercier tous les auditeurs qui ont suivi ces émissions depuis le début du Ramadan. Et puisque c'est la dernière émission, je voudrais commencer d'abord par souhaiter d'excellentes fêtes et un Ramadan Mubarak wa Maqboul wa Eid Mubarak kadhalik lil jami'. Et en espérant que tout ce que nous avons dit aura servi à attirer l'attention sur une manière moderne, une manière crédible, une manière pratique de parler des grands problèmes que pose la présence de l'islam en Europe, surtout dans cette période agitée et difficile que nous vivons depuis le 1er septembre, depuis le 1er septembre 2001. Et la chose la plus importante que j'espère avoir fait sentir tout au moins, c'est la curiosité de lire des ouvrages qui parlent de la période fondatrice de l'islam. Parce que j'ai essayé de vous montrer que la connaissance que nous avons parmi les musulmans d'aujourd'hui de cette période est davantage fondée sur des récits mythiques, sur des récits apologétiques, c'est-à-dire qui font l'apologie de la croyance musulmane, et des récits également hagiographiques. La géographie, c'est une science qui étudie la vie des saints telle qu'elle est racontée dans les communautés religieuses, sans se soucier de l'aspect historique de cette vie des saints qui est toujours embellie, qui est toujours idéalisée par le rappel des miracles accomplis par les saints, par exemple, de la vie surnaturelle des saints, et qui donc nous plonge dans une croyance fondée sur ce qu'on appelle le merveilleux, ce qu'on appelle le surnaturel, beaucoup plus que sur les réalités historiques qu'ont vécues les générations très lointaines du début de l'islam, comme du début des autres religions qui font exactement la même chose. Ce ne sont pas là des procédés particuliers à l'islam. Je souhaite avoir réussi à susciter donc des curiosités chez les auditeurs pour se procurer des ouvrages qui contrebalancent la présentation mythologique des grandes figures de l'islam, des textes sacrés fondateurs de l'islam, pour les aborder de manière historique et ainsi ouvrir des chemins nouveaux et ouvrir des possibilités d'interprétation des textes anciens pour créer moins de conflits, moins d'incompréhensions dans la manière dont nous discutons les questions religieuses avec nos partenaires de l'Occident, de l'Europe où nous vivons, mais aussi pour apaiser les conflits également autour du statut de la femme, par exemple, autour du statut du pouvoir politique, pour lequel beaucoup de musulmans considèrent que beaucoup de régimes actuels sont illégitimes dans la mesure où ils n'acceptent pas d'appliquer intégralement la charia. Il y a des tensions qui conduisent à des guerres civiles, même parmi les musulmans. Et par exemple, pour cette charia, je ne pense pas avoir suffisamment parlé d'un point important que j'évoque rapidement pour surtout inciter les auditeurs à aller lire des ouvrages très importants sur la question des sources fondements de la charia. Je traduis par sources fondements de la charia le mot usul, usul al-fiqh et usul al-din. Et à propos de ce mot asl, usul, qui réfère chez les sunnites aux quatre grandes sources de la charia et du fiqh. Il y a une distinction entre charia et fiqh, comme on l'a dit. Et ces sources, ces quatre sources, ce sont le Coran, dans l'ordre d'importance, le Coran, le hadith, l'ijma, le consensus des musulmans, ou le consensus des ulama d'une période donnée de l'histoire. Il y a des discussions sur les formes que doit prendre l'ijma. Et la dernière source, c'est le qiyas, l'analogie, le raisonnement par analogie. C'est très compliqué, je ne vais pas évidemment entrer dans les explications ici, pour ramener toute disposition juridique nouvelle, tout hukm, qualification juridique nouvelle d'une situation nouvelle. Par exemple, le port du voile dans les sociétés européennes, c'est une situation nouvelle. Alors, il faut apporter des réponses nouvelles en fonction, pour intégrer les situations nouvelles dans lesquelles nous vivons. Alors, on peut être amené à utiliser cette quatrième source. Alors, cette manière de raisonner pour construire le droit, ou bien pour faire des fatwas, c'est-à-dire pour donner aux croyants qui posent des questions, chaque fois qu'ils se trouvent en difficulté, ils s'adressent à un alim qui joue le rôle de mufti, c'est-à-dire de quelqu'un qui donne un avis, une solution possible, pas une solution contraignante, mais une solution possible en délivrant ce qu'on appelle justement un conseil d'ordre juridico-religieux, la fatwa. Et cette fonction est en train d'émerger dans les sociétés européennes, puisque l'Union des organisations islamiques de France a eu l'initiative de créer un conseil européen de la fatwa. On voit donc que la référence aux usul est une chose qui est en train d'être réactivée, appliquée par des musulmans siégeant dans les capitales européennes, dans les pays européens, en appliquant des méthodes, une méthodologie qui remonte tout de même au Moyen-Âge, c'est-à-dire au 8e, 9e, 10e siècle, car c'est à ce moment-là, dans ces siècles-là, que la discipline des usul s'est constituée. Alors je voudrais attirer l'attention sur cette clé de tous les débats que nous sommes en train d'avoir avec les Européens. Parce que les musulmans qui donnent des fatwas continuent d'utiliser les mêmes types de raisonnement et continuent de donner des solutions, de rechercher des solutions aux problèmes posés par l'islam aujourd'hui en utilisant la même méthodologie pour l'exégèse des textes coraniques et du hadith qui sont les premières sources, pour la constitution ou pour atteindre un niveau de consensus d'ijma entre les ulama d'aujourd'hui. Alors c'est un consensus limité aux ulama, alors qu'aujourd'hui les musulmans vivent dans des pays démocratiques où s'exprime un suffrage universel. Et dans la construction du droit moderne, c'est le suffrage universel qui donne une base de légitimité au droit moderne auquel les citoyens libres, dans des démocraties libres, obéissent. Et l'obéissance à la loi change par conséquent lorsque on a affaire à un droit moderne issu de vote dans les parlements, mais les parlements votent eux-mêmes en tant que représentants du suffrage populaire universel. Donc la question se pose aujourd'hui de l'ijma, est-ce qu'il doit être restreint à un groupe de ulama, lesquels et pourquoi les choisir, ou bien le droit, car la fatwa est une forme du droit, puisqu'elle prend des positions en se référant à des juridictions, à des instances qui ont la charge de dire le droit. Et alors la question se pose si ce consensus doit être étendu démocratiquement ou limité à certains ulama. Voilà, donc je voudrais encore une fois souhaiter de bonnes fêtes et je l'espère un grand intérêt à tous les auditeurs pour cette orientation que j'ai essayé d'esquisser très rapidement avec malheureusement des interventions entrecoupées, puisque la loi du genre à la radio veut que un entretien au-delà de 10 minutes suscite l'impatience des auditeurs, et les auditeurs n'ont pas le temps, évidemment, du temps à consacrer, surtout pendant la journée, à des interventions plus longues. Merci encore, et je l'espère à une autre fois pour une autre série, encore plus riche, je l'espère, d'émissions.